Cora malienne, guitare aborigène, pop anglaise, piano italien, rythme libanais, Morna du Cap-Vert. Désignez votre meilleur album étranger de l'année, votez sur le site Et pourtant elle tourne sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
Et il est 15h04, je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un autre point sur l'actualité. Tout de suite, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Il faut croire que sur France 2, alerte grippale rime avec identité nationale. Non, non, je plaisante pas. Hein. Hier soir aux 20h, une interview d'Éric Besson. Et juste après, un reportage sur la grippe touchant les musulmans lors du pèlerinage à la Mecque. David Pujadas avait l'air grave. Déjà 4 morts là-bas à cause du virus. Donc, chers amis musulmans, gare à vous. Comme si la Mecque, si loin d'ici, c'était plus dangereux que le métro aux heures de pointe, les trains bondés au retour du boulot ou les grands magasins où on se piétine dans cette époque d'achat de Noël. Alors, on attend avec impatience sur France 2 l'alerte grippale pour les pèlerins vers Saint-Pierre de Rome, pour les fêtes de la Nativité et pour tous les chrétiens d'ailleurs. Car selon le même état d'esprit, les messes du dimanche, celles de Noël, ben ça va sûrement être des hauts lieux de dangerosité grippale.
Bonjour Daniel, c'est Adèle de la Varenne. Je suis aujourd'hui à Angers pour manifester. On a rejoint les professeurs. Alors on était la poste, les professeurs, contre la privatisation, contre l'abolition du service public. C'était bien, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Je voulais qu'il y ait de l'ambiance derrière pour appeler. Ce sera pour une prochaine fois.
Merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui. J'attendais tellement le point de vue d'un médecin tel que celui du docteur Marc Girard, si j'ai bien compris, sur Inter. N'en pouvant plus, par ailleurs, du matraquage vaccinaux, démagos, trouillards, trouillots, tout ce que vous voulez, de cette même radio. Alors je suis désolée, mais la résistance du docteur Girard, en l'occurrence, suscite ma totale admiration.
Bonjour, simplement un petit message de Daniel de Zurich, suite à l'émission d'aujourd'hui, pour vous dire que les médecins suisses interdisent aux femmes enceintes de se vacciner. Donc au pays de Novartis, il est quand même intéressant de le signaler, alors que commence la campagne de vaccination en France, dans le tintamarre médiatique que nous connaissons tous. Voilà, bonjour à tous.
Bonjour là-bas, si j'y suis, c'est Marie de Corse, je suis une maman de 30 ans qui a une petite fille de 24 mois, je suis enceinte de 3 mois et à l'heure d'aujourd'hui je me pose d'énormes questions par rapport à la grippe et au vaccin. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse qu'il me faut, alors d'aujourd'hui je ne suis pas vaccinée et je ne pense que je ne le serai pas, car plein de choses m'interpellent. Pourquoi un si grand débat médiatique sur une grippe, alors qu'il y a plein d'autres maladies auxquelles on ne parle plus et qui tuent à l'heure d'aujourd'hui autant de personnes? Est-ce que c'est juste pour satisfaire une filière pharmaceutique qui a engendré quelques millions de dollars pour un vaccin qui n'est toujours pas à l'heure actuelle testé? Et moi, je ne suis pas une marchandise, je suis un être humain et j'ai pas envie de tester un produit et de mettre en péril ma grossesse et ma vie.
Oui, Daniel, un grand bravo pour cet entretien avec le docteur Girard. Mais tu vois, quand on compare la médecine des années 70 et celle des années 2000, et qu'en plus on a un peu de culture politique et économique, on est frappé par le fait qu'en matière de médicaments, les multinationales de la pharmacie sont devenues tellement puissantes financièrement qu'elles se jouent des États pour obtenir les autorisations de mise sur le marché de leurs produits, et encore à des prix exorbitants. Mais surtout, ces multinationales sont omniprésentes derrière tous les acteurs de la santé. Alors elles sont au cœur de l'OMS et financent beaucoup de ces missions. Elles financent directement l'Agence européenne du médicament à Londres. Elles suivent pas à pas les internes en médecine pendant leurs études, informations médicales, sujets de thèse, gadgets, aides financières. Elles financent la formation médicale continue des médecins. Elles organisent des colloques elles-mêmes et participent à tous les autres congrès médicaux. Elles fournissent à la grande presse, pour les rubriques santé, des articles écrits par leurs propres journalistes. Elles financent les principaux sites médicaux sur Internet et les associations de malades. Elle finance en sous-main des campagnes de sensibilisation sur certaines maladies, comme les mycoses, l'excès de cholestérol, le tabagisme, etc. Leurs messages publicitaires envahissent les ondes de radio et les écrans de télé. Et grâce à la loi Bachelot de 2009, elles vont pouvoir participer à l'éducation thérapeutique des patients. Bref, elles envahissent notre vie de la naissance à la mort. Et vont même jusqu'à faire modifier la définition de certaines maladies pour développer un marché. Et voire en invente même. Mais il faut lire à ce sujet le livre de Georges Blech, Les inventeurs de maladies, chez Actes Sud.
Inquiétant et inquiété vos messages très souvent, chers AMG. À la suite de l'émission d'hier, un entretien avec le professeur Marc Girard. Je rappelle que cet entretien, on l'a présenté comme un témoignage. Et bien entendu, il s'agit d'une manière de voir qui en aucun cas ne saurait être, surtout de la part d'un homme comme ça, une parole d'évangile. C'est ce genre d'entretien et d'homme qui prête à discussion, qui prête évidemment à débat. Il ne s'agit pas de prendre toutes ces choses-là comme autant d'ordre de l'expert qui vous intimide. Ce dernier message de cet auditeur, c'est notre thème du jour, en fait. La pression, l'omniprésence, l'omnipression des multinationales de la pharmacie qui se jouent des États, comme le dit cet auditeur. Il ne faudrait pas pour autant aller vers la théorie du complot. Ça gagne un peu, ça, ces jours-ci et ces temps-ci. C'est-à-dire que la défiance, la méfiance, le manque de confiance, en un mot, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des pouvoirs publics, qui ne peut aller qu'en grandissant, bien évidemment, étant donné la façon dont le pouvoir s'exerce chez nous, mais étant donné aussi les déréglementations de tous ordres, ne doit pas nous conduire à accréditer la théorie du complot qui est de dire il y a quelque chose derrière, il y a un grand Satan, ils sont tous là derrière. Ça, c'est évidemment faux, c'est évidemment sot et c'est évidemment facile. Mais il y a bel et bien derrière ces décisions, ces politiques, ces communications, ces numéros devant les caméras, il y a bel et bien cette pression de plus en plus forte des multinationales, de plus en plus forte et depuis pas mal d'années, sur évidemment les décisions prises par nos États. On le sait, on appelle ça le lobbying, on en a parlé beaucoup, on a fait des reportages à ce sujet aux États-Unis, souvenez-vous, à Washington, à Bruxelles aussi, et on a eu une occasion de voir comment c'est ce lobbying pharmaceutique, en l'occurrence, s'applique et fonctionne. C'est une occasion, cette discussion sur la grippe info, la grippe A info ou un toc, permet d'aller voir un peu dans les cuisines, par derrière, et non pas de visiter un grand complot, mais comprendre un peu comment ça fonctionne du côté des coulisses. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs modestes et géniaux. Juste pour vous signaler le Café Repère qui aura lieu ce soir, mardi 24 novembre, dans la vallée du Florival. Alors c'est la petite vallée qui se trouve en Alsace, entre Béziers et Mulhouse. Le thème de Café Repère de ce soir sera « Il faut ». Je dois, je choisis, suis-je libre ? Donc on vous donne rendez-vous à tous les amis du coin, là, de Colmar, Mulhouse, Guébillère, enfin toute la vallée, chez Cléo et Marc, c'est donc à l'auberge du Remspark, au-dessus de l'Intal. Les gens du coin, ils connaissent très bien, c'est cette petite auberge très sympathique là-haut, à 8h.
Bonjour à tout le monde. Donc il y a une grande nouvelle qui est passée inaperçue un petit peu. C'est la nomination de Luc Guyot à la tête de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. Alors Monsieur Guyot, il est membre de l'UMP et il a été écarté de la liste UMP aux européennes parce qu'il est trop proche de Chirac. Il a surtout été président de la FNSEA de 92 à 2001. C'était un grand chantre de l'agriculture intensive et productiviste. Après ça, il a fait 2-3 papiers sur l'agriculture bio et hop, il est transformé, c'est magique. Alors bien, en fait, c'est très bien. On va enfin pouvoir finir d'écraser tous ces petits producteurs autochtones qui n'ont même pas un tracteur pour travailler. On va pouvoir favoriser à leurs dépens tout ce qui gravite autour de notre modèle agricole. Industrie agroalimentaire, mécanisation de l'agriculture, banque du secteur, production chimique de pesticides et autres OGM. En bref, booster nos exportations et leur mettre un peu plus le nez dans les pollutions nécessaires à notre modèle. C'est très bien. En fait, pour moi, cette domination, c'est comme si Jean-Marie Messier prenait le pouvoir au nouveau parti anticapitaliste. Comme si le patron de Total était à la tête de Greenpeace et comme si Proglio devenait le patron des Verts. Comme si, horreur suprême, Jean-Marc Sylvestre prenait la place de Daniel Mermet à la base si j'y suis.
Le repère de la base si j'y suis, Nord-Vendée, c'est demain soir, mercredi, de 20h à 22h à la Pitchouli, place de l'Abbé Grelier à Chalons. On parlera du film Walter, retour en résistance, pour des raisons générales, mais aussi pour des raisons locales. À demain.
Amis de tout bar, bonsoir. Parce que le bar est un lieu de proximité et de rencontre, c'est là, sous l'impulsion de Daniel Mermet, que nous avons décidé d'élire notre domicile. Mais voilà, ces cafés qui contribuent tant à dynamiser la vie locale sont menacés. Différents facteurs entrent en ligne de compte, la dilution du tissu social, le durcissement de la réglementation, le zapping d'ambiance ou tout simplement la mauvaise image du pilier de comptoir. Derrière ces bars, il y a aussi des artistes amateurs, sans statut, sans légitimité, qu'on voudrait tous ranger dans la case professionnelle et dont la moindre représentation, même dans un lieu modeste, impliquerait des coûts énormes. Pour réfléchir à la place de ces piliers de notre société et de la culture dans ces lieux de fête, rejoignez-nous le jeudi 26 novembre au Canon à Pâte, rue Alsace-Lorraine, à Rosay, aux portes de Nantes et du tram. À bientôt.
Les laboratoires pharmaceutiques font toujours du lobbying pour que les campagnes de vaccination soient massives. Ce qui, globalement, est un contresens en termes de santé publique, puisque c'est beaucoup plus coûteux et même inefficace par rapport à ce que pourraient être des campagnes de vaccination ciblées.
On peut se demander si, dans ce domaine-là, il ne s'agit pas de mettre en œuvre une politique visant à maintenir la santé de l'industrie pharmaceutique beaucoup plus que la santé des Français.
Pour vous donner une idée sur l'importance économique des labos pharmaceutiques, en préparant mon enquête sur les labos pharmaceutiques, j'ai été invité à Matignon. Et on m'a expliqué, en gros, que, en enquêtant sur les labos pharmaceutiques, ce qui était très courageux et très sympathique, je m'attaquais à la montagne d'argent, Dixit, j'ouvre les guillemets, à la montagne d'argent sur laquelle nous sommes tous assis, à droite comme à gauche.
Tous les parlementaires ont reçu un livre de référence où on a tous les référents sur la santé au sein des ministères. Donc vous avez ce trombinoscope, si je puis dire, hein, où il y a Madame Bachelot, ministre de la Santé. Et quand vous fermez ce petit livret, donc envoyé par le ministère, vous trouvez le logo d'un laboratoire.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Le, Pascal Diello et François Ruffin, l'alibi des lobbies.
Flight number 2, arriving from New York.
Martin Vinclair, bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes écrivain et vous étiez chroniqueur sur France Inter. Vous vivez aujourd'hui donc au Québec, où vous êtes chercheur à l'Université de Montréal. Alors aujourd'hui, si vous deviez faire justement une chronique sur la grippe A, est-ce que vous seriez pour la vaccination ?
Ah ben non, j'aurais fait exactement ce que j'ai fait l'année où j'étais à France Inter et où il y avait le SARS, vous savez, cette maladie infectieuse qui a fait très très peur. Je suis allé sur le site de l'OMS, sur lequel on relevait tous les cas de décès dus au SARS. Et j'avais fait une chronique disant, ben, on va peut-être se calmer avec le SARS parce que, à l'heure actuelle, il y avait, au moment où j'écrivais, il y avait 1400 cas de SARS dans le monde et 150 décès dans le monde. Et là, j'ai fait la même chose il n'y a pas très longtemps au sujet de la grippe sur mon blog. C'est-à-dire que j'en avais assez d'entendre parler d'une pandémie qui allait tuer des millions de personnes. Je suis allé suivre les chiffres de l'OMS puisque c'est l'OMS qui a tiré le signal d'alarme. Mais maintenant que la pandémie est terminée dans l'hémisphère sud, on sait que par exemple dans l'hémisphère sud, et en particulier dans les pays où on relève les cas de grippe de façon très pointue, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on sait que la grippe H1N1 a tué moins de monde que la grippe saisonnière n'en a tué l'an dernier. Par conséquent, c'est un virus qui est certes très contagieux, qui certes touche des gens plutôt jeunes parce qu'ils ne sont pas encore immunisés, mais elle tue moins. Alors, il n'y a pas de raison, véritablement, à partir du moment où on ne vaccine pas tout le monde contre les grippes saisonnières, de vacciner toute la planète contre un virus qui tue moins que la grippe saisonnière. Mais il y a une crainte qui a été entretenue, et on voit très bien qu'elle a été entretenue, puisqu'on a eu droit successivement au SARS, on a eu droit à la grippe aviaire, et maintenant on a droit à la grippe H1N1, pour suggérer au gouvernement des pays développés d'implanter des usines de fabrication de vaccins et de préparer des vaccins contre ces maladies hypothétiques qui allaient massacrer l'humanité. Et vous commandez des vaccins sur la foi de quoi ? Sur la foi d'un certain nombre d'experts qui sont à 95% des experts qui émargent sur les bulletins de salaire de l'industrie pharmaceutique et qui donc ont intérêt à vous dire « Ah bah oui, vous savez, ça peut être dangereux, il faut protéger vos populations ».
Mais là, Martin Winkler, vous savez qu'il y a une liste noire, il y a le docteur Girard, il y a le professeur Debré, il y a vous maintenant. Si jamais la grippe A fait 1 million de morts cet hiver, finalement, on vous poursuivra pour crime contre l'humanité.
Ben, je prends pas trop de risques parce que je vois pas pourquoi la grippe A ferait plus de morts, encore une fois, en France qu'elle en a fait en Australie. Ce sont des pays développés du même style. Auquel en ferait au Brésil? Parce que au Brésil, je sais pas si vous savez, mais il y a eu des grippes dans les favelas. On n'a pas entendu dire qu'il y avait des millions de morts dans les favelas parce que ça se serait su. Il n'y a pas eu de millions de morts en Chine ou en Inde. Et puis, eh ben, finalement, eux, ils n'avaient pas de vaccin. Ben, les gens ne sont pas morts. Enfin, il y a eu des morts, bien entendu, parce que toutes les maladies infectieuses peuvent tuer des gens. Quand bien même, ce serait une maladie qui serait aussi grave ou un peu plus grave que la grippe saisonnière. Ça ne justifierait pas les circonstances dans lesquelles on a autorisé la commercialisation des vaccins en dépit de toutes les précautions de fabrication habituelles.
Ça, combien de pain?
Il y a des choses dont on peut être fier quand on est français, qu'on est sensible au record dont nous sommes capables. Une chose dont nous pouvons nous enorgueillir, c'est notre consommation de médicaments. Nous battons des records au niveau européen dans ce domaine. Pourquoi nos enfants avalent-ils dès leur naissance des produits pharmaceutiques en surnombre et parfois même fortement déconseillés par l'OMS? Pourquoi les personnes âgées vivant dans notre pays sont-elles soumises au même gavage? Des observateurs de la santé se posent ces questions depuis longtemps et répètent qu'il faudra bien un jour que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur les raisons de cette spécificité française. Voilà quelque chose qui est lié à l'identité française, si on veut bien faire un rapprochement. D'autant que nous ne sommes pas plus malades que des Australiens, des Norvégiens ou des Sud-Américains. Et les réponses existent pourtant. Elles sont connues et l'on peut même les regrouper sans mal. Il suffit de le vouloir et de ne pas être sujet au vertige. Leur liste, la liste de ces réponses, ressemble en effet à un escalier, un peu dissuasif, mais on voit mieux les choses d'en haut. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Une vision panoramique permet de comprendre les liens qui organisent le paysage. On découvre alors que, contrairement à une tendance commune qui impute la faute aux usagers du système de santé, comme toujours, les raisons de cette surconsommation tiennent largement aux stratégies d'influence des firmes. Les professionnels de l'influence sont là sans qu'il y ait, je l'ai dit en commençant, complot, comme l'expliquait le docteur Winkler, Martin Winkler, et comme vont nous l'expliquer d'autres intervenants à la faveur de ces questions que nous nous posons sur cette grippe A et le vaccin, les vaccins qui pour lutter contre cette grippe. Influence professionnelle de l'influence, c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Qu'il était bon, qu'il était bon, l'étendue du mérite cerveau, l'on ne savait rien de ce mot aspirine. Et j'éternuai à tout va. Ils avaient des négros comme ça et ça sentait bon l'infusion dans les cuisines. Aujourd'hui on se fait des vaccins, on prend des trucs et des machins, on s'enfile des ustensiles dans les narines. On ne peut plus maintenant être malade comme avant. Tout ça à cause des médicaments. J'en ai assez, je n'en peux plus. J'ai m'enfilé de tuer dans les oreilles, dans le gosier. Je voudrais bien qu'un jour on cesse de me piquer dans les deux bras et les biceps comme des nougats. Je suis gentil, je suis très bon, mais faut pas me prendre pour un crétin. Et si un beau jour je m'énerve, je le dirai carrément zut. Qu'il était bon, qu'il était beau, l'étendue, mais le cerveau, l'on ne savait rien de ces mots aspirines. Quand on n'était pas bien portant, on s'adressait à grand-maman qui nous préparait un lavement pour une angine. Aujourd'hui, pour un panari, on dévalise des pharmacies où la moitié de nos économies se dépine. On ne peut plus maintenant être malade comme avant. Tout ça à cause des médicaments.
Bon, Daniel, je vais t'expliquer le reportage d'aujourd'hui. Alors bon, t'entends, on s'ennuie au bureau, hein, même à la base, j'y suis. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais regardé la biographie de Roselyne Bachelot. J'ai tapé Bachelot sur Google. J'ai regardé dans Wikipédia et je suis tombé sur cette information, sur l'information qui est que, attends, elle était déléguée à l'information médicale, laboratoire IC Pharma de 1969 à 1976. Donc elle travaillait pour le laboratoire IC Pharma. Puis elle était chargée des relations publiques chez Sogi Pharm, un autre laboratoire pharmaceutique, de 1984 à 1989. Donc je suis tombé sur cette info sur Wikipédia et puis ensuite j'étais vérifié. C'est encore dans son CV, son vieux CV, que lorsqu'elle était au Parlement européen en 2004. Là où il y a un mystère, c'est que quand elle devient ministre de la Santé, là on peut regarder, j'ai les papiers devant les yeux, tu as les papiers devant les yeux, tu peux regarder quand elle est sur le site du ministère de la Santé maintenant, eh ben c'est 12 années où elle était au service de l'industrie pharmaceutique, eh bien ça disparaît. On a plein de choses dans sa biographie sur le site du ministère de la Santé. On sait que les deux parents de Roselyne Bachelot étaient docteurs en chirurgie dentaire, qu'elle a approfondi ses recherches en spectrophotométrie infrarouge, qu'elle est même très balèze sur l'influence des atomes métalliques sur la liaison carbone-hydrogène dans les molécules complexes. Tout ça, on le sait, mais n'apparaît plus ni le laboratoire IC Pharma, ni le laboratoire Sogi Pharm. Donc je me suis dit, bon bah on va appeler pour voir comment ça se fait que ces 12 années ont disparu. On va appeler là maintenant le ministère de la Santé pour savoir ce qu'a fait Roselyne Bachelot exactement pour l'industrie pharmaceutique durant ces 12 années.
Santé, sport, bonjour.
Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le service de presse, s'il vous plaît?
De quel ministère?
La Santé.
Oui, patientez.
Service presse d'Roselyne Bachelot, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis François Ruffin de France Inter.
Oui.
J'appelais au sujet du parcours de Roselyne Bachelot au sein des laboratoires pharmaceutiques.
Oui, alors attendez, je vois si on peut vous prendre. Ne quittez pas.
Décourtez votre attente.
Allô?
Oui, bonjour madame. Et je voulais avoir des précisions concernant le parcours de Roselyne Bachelot au sein des laboratoires pharmaceutiques. Elle a bien été déléguée à l'information médicale au sein du laboratoire IC Pharma de 69 à 76.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de m'envoyer un mail, s'il vous plaît?
D'accord.
D'accord?
Oui, très bien. Mais je vous envoie ça tout de suite alors.
D'accord.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors voilà, bon écoutez, ça c'est les manies de François Ruffin, persécuter les ministres, persécuter des gens qui se dévouent pour la cause publique. J'espère qu'il n'aura aucune réponse d'ici à 16h. Notre sujet du jour, c'est les professionnels de l'influence, ceux qui font que nous mangeons ce que nous mangeons et que nous gobons ce que nous gobons. Je parle des médicaments. Voici Roger Langlais, qui est auteur d'une enquête, il y a passé 10 ans, ce monsieur, sur le lobbying de l'industrie pharmaceutique, et son ouvrage s'appelle « Lobbying et santé » ou « Comment certains industriels font pression contre l'intérêt général ». Pas de parano, pas de théorie du complot. Roger Langlais.
Pour vous donner une idée, hein, au moins un concept, on va dire, sur l'importance économique des labos pharmaceutiques. en écrivant, en préparant mon enquête sur les labos pharmaceutiques, j'ai été invité à Matignon. Donc c'était il y a déjà quelques années, hein, parce que j'enquête pas, c'est pas depuis hier cette enquête. On m'a invité à déjeuner et on m'a expliqué en gros que c'était très sympa ce que je faisais sur les labos. Alors bon, bah, je vais pas donner de nom précis, mais enfin c'était vraiment au plus haut niveau, quoi, auprès du Premier ministre. Donc le déjeuner était très sympa et au passage, on m'a simplement rappelé que en enquêtant sur les labos pharmaceutiques, ce qui était très courageux et très sympathique, je m'attaquais à la montagne d'argent, Dixit. J'ouvre les guillemets, à la montagne d'argent sur laquelle nous sommes tous assis, à droite comme à gauche. Aujourd'hui, tout simplement, les lobbyistes doivent avoir une approche des politiques plus individuelle. Et un de ces systèmes, c'est le pantouflage intense. On peut aujourd'hui parler de porte pivotante plutôt, qui pivote très vite, c'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre la fonction publique, type ministre, etc., et la vie au sein des directions d'entreprise.
Des va-et-vient de personnel entre la fonction publique, entre le gouvernement et les industries pharmaceutiques, c'est ça?
Absolument, et bien évidemment, au service des industriels et non pas de l'État. Et je rappelle que Nicolas Sarkozy, en 2007, une des premières mesures, ça a été de réduire le temps d'interdiction entre l'exercice d'une fonction publique et le pantouflage dans la vie privée. C'était réduit de 5 ans à 3 ans, c'est-à-dire qu'on est en train de banaliser ce système de porte pivotante qui permet en gros aux industries d'obtenir à peu près ce qu'ils veulent des grands représentants de l'État. C'est vrai que on le voit avec systématiquement aujourd'hui les ministres qui succèdent. Donc la dernière en date, Roselyne Bachelot, était chargée des relations publiques. C'est une des dénominations des lobbyistes, hein. C'est un titre qui avait été inventé par Édouard Bernays, un des fondateurs du lobbying, qui disait, on hésitait entre le mot propagandisme, etc., mais ça le foutait mal, donc on avait inventé tout simplement cette expression de relations publiques. Bon, donc Roselyne Bachelot a exercé cette activité pour le compte du groupe pharmaceutique Sogifarm, qui appartenait d'ailleurs à ses parents. Elle était aussi visiteur médical d'autres labos pharmaceutiques. Elle se retrouve ministre de la Santé. Bien évidemment, c'est pas sain, hein, puisque la ministre elle-même est dans une situation qu'on peut considérer comme douteuse.
C'est un grand classique des campagnes de vaccination, la ministre de la Santé piquée devant les caméras.
Leparisien.fr.
Roselyne Bachelot sait que les trois quarts des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner.
12 novembre 2009.
Même si aucun effet indésirable sérieux n'a été détecté auprès des personnels de santé vaccinés en premier.
Cette grippe, elle présente des formes qui peuvent être très très graves.
Roselyne Bachelot.
Il y a aujourd'hui 25 personnes qui sont par exemple hospitalisés dans les hôpitaux de Paris avec 10 petits-enfants qui présentent des formes extrêmement graves, avec leurs poumons qui sont détruits, qui sont attaqués par le virus AH1N1.
Une dizaine de centres ont ouvert dans chaque département, souvent dans des gymnases ou des salles des fêtes. Une piqûre aujourd'hui, une deuxième dans 3 semaines.
On se concentre aujourd'hui sur cette vaccination massive, en se demandant donc si finalement elle est justifiée dans son ampleur, notamment dans les 94 millions de doses qui ont été achetées, le coût, etc.
Le coût qui avoisine qui est 900 millions, enfin
oui,
800 millions d'euros.
1 milliard d'euros en fait, hein, avec les coûts annexes qu'on ne calcule même pas, enfin bref. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que les campagnes de vaccination massives injustifiées, ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de plusieurs décennies. Donc les laboratoires pharmaceutiques font toujours du lobbying pour que les campagnes de vaccination soient massives. Ce qui, globalement, est un contresens en termes de santé publique, puisque c'est beaucoup plus coûteux et même inefficace par rapport à ce que pourraient être des campagnes de vaccination ciblées. C'est-à-dire on repère les groupes à risque, on les vaccine. Et là, à ce moment-là, aussi bien en termes de transmission que de protection des personnes qui, elles, sont vraiment susceptibles d'attraper le virus ou la maladie, donc à ce moment-là, sont vraiment protégées. Alors évidemment, ça représente beaucoup moins d'argent pour les laboratoires pharmaceutiques. Or, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que les experts qui l'ont préconisé donc sont financés par l'industrie pharmaceutique.
Est-ce qu'on peut parler du professeur Lina?
Oui, alors donc c'est ce fameux organisme là, le GEIG, enfin GEIG,
le groupe
d'expertise et d'information sur la grippe. C'est un organisme financé complètement par les laboratoires pharmaceutiques. Bon, donc jugé parti dans cette affaire. Ce qui est troublant, c'est que le ministère de la Santé se positionne par rapport donc aux opinions émises par ce groupe d'experts, entre guillemets. Dans cette affaire, on peut se demander si les groupes de travail en question ont su résister, puisqu'ils ont préconisé manifestement des mesures qui étaient très favorables aux laboratoires pharmaceutiques, et donc peut-être trop, peut-être beaucoup trop.
Stop au virus de la grippe.
La grippe A, H1N1, n'est pas une maladie anodine. Elle peut avoir des conséquences graves. Nous pouvons tous faire quelque chose pour en limiter la propagation. Contre la grippe, la meilleure protection pour soi, pour son entourage, pour les plus fragiles, c'est la vaccination. Vous pourrez vous faire vacciner dès que vous aurez reçu par courrier un bon de vaccination. C'était un message du ministère de la Santé et de l'INPES.
Alors aujourd'hui, l'agence du médicament, donc on appelle l'AFSAPS, l'agence française de sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé, repose à 80% sur les financements des laboratoires pharmaceutiques.
Parce que c'est elle qui, en France, c'est l'agence qui donne les autorisations de mise sur le marché.
Donc on peut dire que la situation, c'est que les laboratoires pharmaceutiques sont jugés partis dans cette histoire. Autrement dit, le contrôler se contrôle lui-même, à travers donc une institution qui n'est pas indépendante et qui, sur le plan financier, donc dépend à 80% des laboratoires, c'est-à-dire qu'en gros, plus l'agence autorise de médicaments et plus son budget grossit.
L'AFSA, plus elle va autoriser de médicaments, plus les labos vont lui donner de l'argent.
Absolument.
Directement, enfin...
Directement, alors c'est tout le problème. La Cour des comptes, d'ailleurs, avait essayé d'attirer l'attention des autorités politiques sur le sujet.
C'était en quelle année, à peu près?
C'est même régulier, parce que c'était en 2005, 2007. Vous voyez, c'est très, très récent. Le fonctionnement de l'agence reposait, il y a encore quelques années, en 2006, à 50% sur les versements des labos. Et aujourd'hui, on en est déjà à 80%, c'est-à-dire la quasi-totalité du budget de l'agence. Et il faudrait, d'une façon toute simple, que cet argent versé par le laboratoire aille dans les caisses de l'État, mais que le budget de l'AFSAPS ne soit pas dépendant de ces versements des labos. Bon, c'est fondamental, normalement, c'est même inscrit dans la Constitution. Voilà.
Oula, 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 oula. Pique, pique, voici les piqûres, cache, 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 voici les cachets. Tempe, 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 la température, prenez vos bidis, prenez vos billets.
Pique, pique, pique,
voici les piqûres,
cache, cache, cache,
voici les cachets.
Tempe, tempe, tempe,
la température, prenez vos bibis, prenez vos billets.
La pénicilline,
la téramycine,
l'oréomycine,
et le colargol,
la tifomycine,
la supokinine,
et le boulganine,
et le goménol.
La pénicilline, la téramycine, l'oréomycine,
et le colargol, la tifomycine,
la supokinine,
et le boulganine,
et le goménol.
Désinfectons nos existences. Plus grippe asiatique, ni de rhume anglais. C'est le virus qui vient de France, qui seul nous donnera l'amour et la paix.
Désinfectons,
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 désinfectons.
Qu'un air plus pur abreuve nos poumons.
Service de presse d'Rosine Bachelot, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Rosine Bachelot a bien été déléguée à l'information médicale au sein du laboratoire ICI Pharma pendant cette année de 69 à 76?
Oula, attendez, là, quittez pas. Écoutez, non, à mon niveau, je n'ai pas cette information. Vous voulez que je demande à la conseillère Com et Presse de vous rappeler?
Volontiers,
sur
oui.
Sur ce sujet.
Je vous remercie beaucoup.
De rien, au revoir.
Ah, il s'acharne, hein, les reporters de là-bas, si j'y suis, sur cette pauvre madame Bachelot. Continuons à essayer de comprendre comment les professionnels de l'influence opèrent sur le monde politique. Alors ça, c'est pas facile de trouver des élus qui acceptent de nous dire, eh ben oui, comment opèrent ces multinationales de la pharmacie. Eh bien, on a rencontré une élue, Catherine Lemorton, députée de Haute-Garonne, membre de la commission des affaires sociales, qui a été pharmacienne pendant 23 ans et qui nous éclaire quelque peu.
Vous avez un désengagement de l'État sur son devoir d'expertise indépendante. Parce que c'est ça, la vraie expertise pour que nous, les députés, on puisse légiférer en toute indépendance, c'est d'avoir des expertises indépendantes, quelles que soient les lois votées. Or aujourd'hui, ce groupe dont on parle, ce groupe de lobby qui est l'industrie pharmaceutique, se substitue à l'expertise indépendante en disant c'est nous qui avons raison. Nous, pour faire la loi, on vous dit que c'est nous qui avons raison. Donc, on nous amène des expertises clés en main, qui vont forcément dans leurs intérêts. Je dis pas qu'ils négligent la santé publique, mais enfin, quand ils vous invitent, c'est pour vendre leur insuline ou pour vendre... Enfin, je dis insuline, je peux dire un autre produit, mais c'est pour vendre leur produit. Alors, vous avez beaucoup d'invitations où il y a un labo seul qui invite, on suppose, puisqu'il y a son seul logo, et c'est quand même toujours les mêmes qu'on retrouve, hein. Pfizer, j'ai eu Roche. Après, vous avez par exemple leur autre association qui s'appelle les laboratoires de recherche, le LIR. Hein. C'est toute la division des laboratoires qu'on a nommés, mais c'est leur division recherche. Bon, ce sont, vous voyez, des invitations tout à fait en bonne et due forme. Hein. Là, on a les valeurs ajoutées de la vaccination. Et là, c'est avec le soutien institutionnel du laboratoire
Vite.
Voilà. Quand ça vient d'un groupe économique et financier, dire que c'est un soutien institutionnel. Moi, quand je vois une invitation avec un soutien institutionnel, j'ai plutôt envie de voir le nom d'un ministre, d'un secrétaire d'État, d'une autorité sanitaire, puisque c'est la santé en la matière. Voilà.
Et là, on a à l'intérieur, donc évidemment, des chercheurs, des professeurs qui interviennent. C'est juste avant que ne soit révisée une loi. On vous invite à dîner dans un hôtel de Paris.
Absolument. Et alors là, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Les entreprises du médicament, le cercle de réflexion santé créé en 2007, sous l'égide du président des entreprises du médicament, vous invite à la questure de l'Assemblée nationale. Donc là, ça dépasse l'entendement. On est carrément dans les murs de l'Assemblée nationale. On n'est plus dans un hôtel à l'extérieur. Où le thème était les biotechnologies, de point croissance et emploi de demain. C'est un enjeu, les biotechnologies. Mais que ce soit organisé par les entreprises du médicament à l'intérieur de l'Assemblée nationale, à la questure, moi, ça me pose un problème éthique. Écoutez, c'est un peu, on va me trouver jusqu'au boutiste, mais ça me gêne.
Donc, c'était avec Christian Lajoux, qui est le président des syndicats des entreprises du médicament, et avec notamment un député aussi, puisque Claude Gatignol, sous réserve, député de la Manche, était en tout cas sur le menu. Donc j'imagine avec tout ça, vous pouvez manger gratuitement tous les jours de l'année, quasiment.
Tous les jours, mais on a quand même quelques repas de payer. Hein. Maintenant, effectivement, vous êtes invité dans un grand restaurant où on vous chouchoute. Peut-être que ça aide à prendre des décisions. J'exagère, je suis un peu provocatrice en disant ça. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller dans un restaurant pour écouter ce qu'ils ont à me dire.
Est-ce que, justement, beaucoup d'élus ne le refusent pas et est-ce que ça se ressent lors des votes des textes de loi ou...
Ça se ressent dans les textes de loi, c'est-à-dire qu'on voit certains amendements qui arrivent. Et moi, je vois bien qu'ils prennent leurs sources auprès de l'industrie. C'est évident.
Voilà, on est au gymnase Auguste Renoir et Madame Roselyne Bachelot est en train d'arriver pour inaugurer le centre de vaccination et la première vaccination contre la grippe. Pardon, excusez-moi.
France Inter, c'est bon, allez-y.
Merci. Bonjour, on rentre dans le gymnase. On suit toujours derrière au pas de course la ministre entourée de ses conseillers, centre de vaccination, et on rentre dans le gymnase. Et à droite, il y a surtout des barrières et il y a surtout beaucoup de journalistes avec des caméras, des appareils photo, des perches.
Reculez-vous un peu, Madame Bachelot. Reculez, madame. Reculez-vous un peu qu'on vous voit tous, s'il vous plaît.
Ça y est, là, Madame Bachelot a commencé tout le parcours qu'il faut suivre pour se faire vacciner. Là, on attend.
Elle arrive.
Elle revient vers nous. Elle se met juste à côté des paravents. Avec les infirmières, mais cette fois-ci, elle ne se met pas derrière les paravents, elle ne se cache pas pour se faire vacciner. Au contraire, elle se montre à tous les journalistes.
La ministre, vous voyez qu'il s'apprête à recevoir une piqûre d'un instant à l'autre, et ce, sans aucun stress, nous a-t-elle dit de sa part. Elle est très étendue.
Merci, ministre de PFM.
Une autre dose, une autre dose.
Ah, là les questions me prennent. Je vais vite essayer de poser la mine. Il va falloir que je me faufile dedans. Il y a plein de perches de partout, il ne faut pas que je me prenne dans la tête. Et je pense qu'il va falloir, à mon avis, hausser le ton parce que tout le monde hurle pour poser sa question.
Les centres de vaccination sont ouverts parfois uniquement deux jours par semaine. Ils sont ouverts à partir de midi. Est-ce que ce n'est pas un peu léger?
Alors, nous allons évidemment adapter les horaires des centres de vaccination
vaccination au public, c'est évidemment un dispositif qu'on peut adapter selon la demande du public. Nous voulons adapter le mode de fonctionnement de ces centres au mode de vie de nos concitoyens.
Madame Bachelot, une réaction sur...
Madame Bachelot,
est-ce que, Madame Bachelot, vous avez été porte-parole pendant 12 ans de deux laboratoires pharmaceutiques?
Oh, écoutez, c'est écoutez, vraiment, cette accusation est absolument répugnante.
Mais c'est ici
pendant 6 ans, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique comme visiteuse médicale à 1000 francs par mois, comme boulot d'étudiant pendant 6 ans. C'est comme si vous disiez aux jeunes gens qui travaillent chez McDo à vendre des hamburgers qui sont à la solde de l'industrie agroalimentaire.
Elle n'a pas aimé. Hein.
Ça a cassé son enthousiasme.
Je suis pas sûr qu'elle ait tant pleuré que ça.
Non, mais comme celle-là, à la fois, elle a lâché, c'est bien.
Ouais, elle est partie, là.
Ah, à mon avis, ouais.
Par la porte de derrière. Vexée. Elle était vexée.
La dernière question, c'était,
elle a peur
c'était
de...
est-ce que vous ne seriez pas la solde des labos, puisque... Ah ouais. Et la réponse qu'elle a faite, elle a dit, attendez, pas plus que... Moi, j'étais étudiant, je gagnais 1000 francs par mois pendant 4 ans.
Vous êtes journaliste?
Oui.
Vous bossez à RTL?
Ouais.
Et vous saviez pas qu'elle avait été...
Et c'est possible, mais bon, on n'a pas de preuves, et puis ça serait trop difficile de faire l'enquête.
Il ne faut pas enquêter trop loin, il faut aller dans le trombinoscope politique.
Voilà, oui.
Vous êtes journaliste?
Oui, pour la société de presse.
La société de presse. Et vous saviez qu'elle avait été porte-parole du laboratoire pharmaceutique pendant 12 ans?
Non, je ne savais pas, non. Effectivement, je ne savais pas du tout. Enfin, c'est vrai qu'après, on peut se poser des questions, quoi.
Vous allez le mentionner ou pas, vous pensez, dans vos papiers?
C'est pas sûr. On verra après. Nous, comme c'est international, c'est vrai qu'à la limite, on préférait interviewer des patients, enfin des gens qui viennent se faire vacciner plutôt que la ministre au final. Enfin, on voulait savoir pourquoi les gens viennent se faire vacciner.
Vous n'avez pas été augmenté depuis 6 ans. Vos collègues sont des buses. Votre supérieur hiérarchique vous terrorise. Votre poste risque d'être supprimé et vous êtes menacé de mutation dans une autre région hostile. Votre morale est donc au plus bas. Heureusement, pour vous, il y a la grippe A. Eh oui, profitez de cette pandémie pour rester tranquillement chez vous. Comment la contracter? C'est simple, en regardant ces quelques conseils.
Pour contracter la grippe A, rien de plus simple. Évitez de vous laver les mains et effectuez quelques gestes simples. Dans les transports en commun, commencez par lécher les sièges, puis lécher activement les poignées des portes, ainsi que les barres centrales où tout le monde s'agrippe. Au restaurant, quelqu'un éternue à côté de vous. Vite, humez l'air ambiant. Au moment d'aller aux toilettes, léchez d'emblée la poignée de la porte, puis la lunette des WC. Avec la langue, faites un tour complet du pourtour. Pour être bien sûr de votre coup, guettez un passant qui se mouche. Récupérez immédiatement son mouchoir en papier. Vous pouvez rentrer chez vous. Tout au long de votre périple, vous aurez également pris soin de sucer des pièces de monnaie. Attendez la période d'incubation de la grippe H1N1, qui est d'environ 2 jours. Ça y est, vous êtes malade. Fini les tracas du boulot grâce à vos 2 semaines d'arrêt maladie. Et même si vous n'avez pas attrapé la grippe A, quoi qu'il arrive, nous vous garantissons au moins la plus belle gastro de toute votre vie.
L'équipe de Groland Magazine présente toutes ses excuses auprès de ceux qui mangeaient en regardant ce reportage. Mais l'information prime.
Je m'appelle François Autain. Je suis sénateur de Loire-Atlantique, membre de la commission des affaires sociales du Sénat. J'en suis même le secrétaire.
D'abord, quelque chose qui m'a interpellé, c'est que je crois savoir que vous avez rencontré Madame Roselyne Bachelot, non?
Écoutez, tout le monde m'en parle, mais c'est vrai, je l'ai rencontré, mais dans des circonstances qui étaient liées à l'exercice de ma profession et de la sienne. Moi, j'étais médecin à l'époque, médecin généraliste dans une petite commune de la banlieue nantaise à Bouguenay. Et Madame Bachelot, alors, était représentante d'un laboratoire, le laboratoire AstraZeneca, hein, qui dont elle était salariée, faisait son travail, hein. Ce qui est tout à fait honorable de la même façon que je faisais le mien. Elle représentait à l'époque un laboratoire, hein, pour me vanter les produits de ce laboratoire. Et je dois dire que d'ailleurs, Madame Bachelot à l'époque m'en avait parlé avec beaucoup de compétence, beaucoup de chaleur, et c'est vrai, je suis pas étonné de la voir aujourd'hui assumer de si hautes fonctions.
Comment sont prises les décisions? On a toujours l'impression que c'est un seul personnage qui a élaboré ça tout seul. Il s'appelle Bachelot, il s'appelle Sarkozy, et voilà. Bien sûr que non. Bien sûr que derrière ces décisions, il y a tout un travail, toute une élaboration, tout un tas de réunions, de conseils divers et d'experts qui interviennent. Mais ces experts sont de plus en plus nombreux à être des professionnels de l'influence, des lobbyistes qui agissent, on l'a vu avec le témoignage de Catherine Lemorton, députée de Haute-Garonne, membre de la commission des affaires sociales à l'instant, et voici maintenant François Autain, qui est sénateur de Loire-Atlantique, secrétaire de la commission des affaires sociales au Sénat, qui est médecin généraliste de formation. Il a rendu notamment un rapport sur les autorisations de mise sur le marché et le suivi des médicaments, et il a montré les liens d'intérêt entre les experts de cette commission qui délivre les autorisations de médicaments et les laboratoires pharmaceutiques. François Autain.
Lorsqu'un laboratoire découvre un médicament, un nouveau médicament, pour qu'il puisse le mettre sur le marché, il doit le soumettre à l'approbation d'une commission qu'on appelle la commission d'autorisation de mise sur le marché, qui est composée d'une quarantaine d'experts, 58, donc, pardon, experts permanents à cette commission d'autorisation de mise sur le marché, donc qui examine le dossier du médicament présenté par le laboratoire. Ce dossier comporte un certain nombre d'essais cliniques qui ont été tous, hélas, réalisés par le laboratoire. Donc, on est obligé de s'en remettre aux déclarations du laboratoire et aux tests qu'il a réalisés. Il n'y a pas de contre-expertise dans ce domaine. Cette commission ne s'est pas donnée ou n'a pas les moyens financiers et matériels de pouvoir exercer cette contre-expertise.
Comment sont nommés les experts de...
Ah, les experts. Alors, les experts sont nommés par le ministre pour une durée de 6 ans. Et il faut reconnaître que le désir de renouvellement de ces experts par le gouvernement n'est pas évident. Je prends pour exemple le président de cette commission, qui est membre de cette commission depuis 1990 et qui est président de cette commission depuis 2003 et qui vient d'être renouvelé pour 6 ans.
Monsieur
Vidcock, qui est professeur Vidcock, très très respectable, très éminent, il n'y a pas de problème. C'est simplement de dire que dans ce domaine, de la même façon qu'on n'accepte pas qu'un préfet reste en poste depuis 4 ans, parce que ce n'est forcément des connivences, des liens, dans ce cas-là, il n'y a pas. Et je pense même qu'il serait souhaitable que pour exercer de telles missions, les médecins qui sont choisis n'aient pas de lien d'intérêt avec les laboratoires.
Pourquoi Monsieur Vidcock, il travaille pour des laboratoires?
Ah oui, il en a. Et moi, je m'en réfère à la liste qui est publiée chaque année par l'AFSAPS, donc l'Agence de sécurité des produits de santé, au sein de laquelle se trouve cette commission. Et Monsieur Vidcock a un certain nombre de liens d'intérêt avec plusieurs laboratoires.
Est-ce qu'on pourrait regarder, s'il vous plaît?
Alors, Daniel Vidcock est donc président depuis 2003. Alors là, j'ai sa déclaration. Il a des liens d'intérêt avec le laboratoire Boehringer. Il a des liens d'intérêt avec le laboratoire Roche et aussi Tobotec. Quand on a des liens d'intérêt avec un laboratoire, on peut pas parler avec suffisamment de recul pour le médicament qui est commercialisé par ce laboratoire avec lequel on a des liens d'intérêt. Et j'irai même plus loin, je dirais que le fait de, comme c'est le cas maintenant, il est obligatoire de publier, de rendre public ces liens d'intérêt. On s'aperçoit que le fait de publier des liens d'intérêt de la part d'un expert ne l'affranchit pas de ces liens d'intérêt. Ils existent toujours, donc ça permet de rendre public le problème, mais ça ne permet absolument pas de le régler.
Qu'est-ce que vous pensez justement, vous, de cette campagne de vaccination?
Le syndrome canicule a joué, donc ils se sont couverts au maximum. Commander 94 millions de doses, c'est quand même, on est quand même les champions du monde de la commande. C'est nous qui avons commandé, proportionnellement à notre population, le plus grand nombre de doses. Certes, à une époque, on considérait qu'il en faudrait 2. aujourd'hui, la confusion règne. Personne n'est capable de dire s'il en faut une ou deux. Il semblerait, d'après ce qu'a répondu la ministre à une question que je lui avais posée, qu'on serait fixé dans 3 semaines. Mais il ne faut pas non plus que ce débat tourne à une remise en cause de la vaccination. La vaccination a apporté par le passé les preuves de son efficacité. C'est grâce à elle que des maladies, des pandémies très très graves ont été complètement éradiquées. Il en reste bien sûr encore à éradiquer, mais je pense la poliomyélite, il n'y en a plus. Mais il n'est pas nécessaire pour autant de commander dans la précipitation en signant des contrats très très avantageux pour les laboratoires.
C'est-à-dire très avantageux.
Très avantageux, c'est-à-dire que tous les risques sont pour celui qui commande et pas pour celui qui fournit. En cas d'effet indésirable, donc c'est le gouvernement qui en assume la responsabilité et le coût, donc c'est pas rien. Et en cas de non-respect des délais de livraison, il n'y a pas de pénalité de retard, oui.
Service de presse de Roselyne Machaud, bonjour.
Oui, bonjour, c'est François Ruffin de France Inter.
Oui, monsieur Ruffin ?
Oui.
Voilà.
Bon.
Quand vous me posez la question de savoir ce que la ministre a fait entre 69 et 76, alors elle a effectivement travaillé, mais alors sachez que quand elle a travaillé, elle n'avait pas du tout un poste stratégique là-dedans. Vous voyez, on remonte à plusieurs décennies, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire ?
L'intitulé de son poste, c'est délégué à l'information médicale au sein du laboratoire ICI Pharma.
Le titre exact, franchement, j'ai pas le titre exact. Regardez, elle me disait qu'elle gagnait 1000 francs. Enfin, oui, ça doit être 1000 francs par mois. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'avait pas un poste où. Bon, ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Concernant la deuxième date, je suis en train de retrouver, entre 84 et 87, elle avait...
Alors, moi, je lis sur le CV qu'elle fournit quand elle est élue députée européenne, chargée des relations publiques chez Sogi Pharm, de 84 à 89.
Elle travaillait sur ce labo, mais alors, comme titre, enfin, vraiment, encore une fois, là, vraiment, elle avait... C'est un petit poste, quoi. Elle a ouvert avec son mari un labo. Enfin, vous voyez.
Elle tenait elle-même un laboratoire pharmaceutique, alors.
Mais vous savez, c'était pas un laboratoire pharmaceutique comme vous l'entendez. Ça n'avait rien à voir. Elle était vraiment.
C'était un laboratoire pharmaceutique, mais pas vraiment un laboratoire pharmaceutique.
Ben oui, non, au sens où vous l'entendez, parce que là actuellement, il y a toute une polémique sur ces labos, qui sont des grosses firmes. À l'époque, ça n'avait rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle occupait.
Elle le fait d'après les dates que j'ai moi, en même temps qu'elle commence à être députée.
Oui.
Ensuite, on nous dit que d'après son CV, au même moment, elle travaille au RPR, notamment sur le thème du médicament.
Là, on a l'impression qu'on décortique tout son passé. Enfin, j'ai beau chercher et je me dis où est le lézard, quoi. Voilà.
D'une part, moi, je pense que le plus simple, ça serait, et pour moi et pour le ministère, ça serait qu'il y ait une interview avec Mme Bachelot, qu'elle s'explique en toute transparence. Elle l'explique ce qu'elle a fait dans les labos pharmaceutiques à ces deux périodes de sa vie. C'est public, on n'en parle plus.
Oui. Mais Monsieur Ruffin, reconnaissez qu'on peut exercer des fonctions dans sa vie. Vous voyez, quand vous dites que on dit qu'elle a travaillé de telle date à telle date dans un labo, etc. On peut avoir exercé ses fonctions. Pour autant, est-ce qu'on peut systématiquement remettre en cause l'éthique, la déontologie d'une personne ?
Est-ce que vous m'avez entendu à un moment mettre en cause la déontologie irréprochable de Madame Bachelot ?
Non. Voilà.
Ce que je trouve regrettable, c'est que ça comprend quand même une dizaine d'années de sa vie.
D'accord, j'ai parfaitement compris
Et au moment où elle entre au ministère, on l'élimine de la biographie officielle.
Moi, par exemple, je ferai la bio de quelqu'un. Dupont va faire la même bio. On la fera pas de la même façon, et vous le savez. Et ça n'a pas du tout dans le but de cacher comme tout le monde. Je suis sûr.
C'est pas possible. C'est pas possible quand vous voyez qu'elle le met en avant dans ses biographies précédentes, quand elle va au Parlement européen, quand elle est élue conseillère régionale et ainsi de suite, que quand elle est députée. Et là, au moment où elle est ministre, on sait que ses parents sont docteurs en chirurgie dentaire, qu'elle est spécialiste en recherche en spectro photométrie infrarouge, sur les liaisons carbone-hydrogène dans les molécules complexes, qu'on a son CV politique intégral et qu'il y a 10 années de sa vie qui, là, paf, passe à la trappe.
Là, mais oui.
Comment ça se fait qu'on fait sauter 10 années de sa biographie quand elle devient ministre de la Santé, quoi? Ce souci de transparence.
D'accord. Alors, si c'est le but poursuivi, je trouve ça vraiment tout à fait à votre honneur. Donc, voilà.
Merci. Au revoir. Allez,
bonne soirée, au revoir.
Et voilà, tout à l'honneur de François Ruffin. Merci à nos reporters Pascal Le Pascarillo et François Ruffin. Merci aussi à Martin Vinclair, Roger Langlais, Catherine Lemorton et François Autain. À lire le livre de Roger Langlais, Lobbying et Santé, publié par les éditions Pascal en octobre 2009. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. Et là aussi, vous avez de la place pour vos commentaires. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec et Fabien Eliès, Coy Nguyen et Raphaël Moutet ont réalisé cette émission. Modeste et générale. Assisté d'Agnès Lebot et quant à Catherine Pinto, c'est elle qui se tient près du répondeur de là-bas si j'y suis, à votre écoute, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Ella Fitzgerald, Sidney Bechet, Dizzy Gillespie, Stan Getz. Lina présente Jazz sur la croisette, un double CD INA Mémoire vive. Et retrouvez les grands moments du Festival de Cannes 1958, ainsi qu'une centaine d'heures de l'âge d'or du jazz sur ina.fr.
Chérie, je vais rentrer très tard, m'attends pas. J'ai une tonne de colis à franchir et à expédier pour demain, c'est l'enfer.
Des colis en soir de match,
oui.
Comme par hasard.
Ah bah, c'est un match.
Tu crois que je sais pas qu'avec la poste, tu peux affranchir tes colis sur internet en quelques clics?
Oui, je sais, mais non, mais c'est pas ça, bibiche.
Ah, y'a pas de bibiche, hein. Y'a plus de bibiche.
La poste avance. Aujourd'hui, avec l'affranchissement en ligne sur laposte.fr, gagnez du temps pour l'envoi de tous vos colis. La poste, la confiance donne de l'avance. France Inter présente Salif Keïta. La différence. Après Mofou et Mbemba, troisième volet de la trilogie acoustique de Salif Keïta, orfèvre de la musique malienne moderne. Retrouvez Salif Keïta et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter.
16h sur France Inter, on se retrouve demain. Là-bas, si j'y suis, à 15h, je vous laisse pour les infos avec Angélique Bois. Salut.
Mille caméras de surveillance supplémentaires dans les rues de Paris. La mesure votée par la majorité municipale socialiste et la droite choque le collectif Démocratie et Liberté. Il annonce dans un communiqué son intention d'intensifier la mobilisation contre cette politique qui veut faire, je cite, de chaque citoyen un suspect permanent. Au cours d'un déplacement en banlieue parisienne consacré justement à la sécurité, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a une nouvelle fois prôné aujourd'hui le développement de ses systèmes de vidéosurveillance. Il a également annoncé qu'il allait mobiliser le fisc contre les trafiquants de drogue. Aurélie Filippetti a été victime d'un malaise en plein hémicycle. La députée socialiste de Moselle a dû être évacuée sur une civière alors qu'elle participait tout à l'heure à la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée. Son attaché parlementaire a indiqué qu'elle était fatiguée sans autre précision. Enseignants mais aussi étudiants, lycéens défilent cet après-midi dans les rues de Paris derrière une banderole sur laquelle on lit « Système éducatif, emploi, salaire, conditions de travail, l'école est asphyxiée, stop ». Ils sont plusieurs milliers à avoir répondu aux trois syndicats de l'éducation qui dénoncent notamment les suppressions de postes de l'an prochain, 16 000 prévus, plusieurs milliers donc à manifester à Paris. Ils ont quitté tout à l'heure Port-Royal en direction des Invalides. D'autres manifestations ont lieu un peu partout en France. À l'échelle nationale, on assiste à la traditionnelle bataille de chiffres sur le nombre de grévistes. 13% dans le primaire, dit le ministère. 31% selon le SNUIP-PFSU. Un peu plus de 12% dans le second degré, 40% selon le syndicat. L'actualité sociale de ce mardi, c'est aussi la grève à la poste. Quatrième journée de mobilisation contre le changement de statut de l'entreprise. Journée beaucoup moins suivie que celle du 22 septembre selon la direction. Le nouveau statut de l'auto-entrepreneur attire bien du monde, mais il ne fait pas vivre tous ceux qui l'ont adopté, loin de là. Plus de 260 000 petits patrons ont choisi cette formule simplifiée pour créer leur entreprise, mais ils sont moins de 50 000 à déclarer un chiffre d'affaires. Du nouveau dans l'enquête sur l'amiante et ses effets néfastes sur la santé, c'est une information de nos confrères de France Info. 13 ans après les toutes premières plaintes, la juge Berthela Geoffroy, en charge de l'affaire, s'apprête à mettre en examen le principal dirigeant de la société Eternit. Eternit a été le plus grand fournisseur d'amiante en Europe. Jusqu'à présent, seuls des directeurs d'usines avaient été inquiétés par la justice. Un lot de vaccins contre la grippe A qui provoque un nombre inquiétant d'allergies violentes chez les patients. Ça se passe au Canada avec un vaccin fabriqué par le laboratoire britannique GSK. Les autorités sanitaires enquêtent. En France, le ministère de la Santé reconnaît qu'il va falloir faire quelques réglages pour pouvoir vacciner tout le monde. Il manque des personnels de santé. Il faut élargir les horaires des centres de vaccination, a reconnu ce matin sur France Info Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, qui a précisé qu'il n'était plus question d'être vacciné sans le bon fourni par la Sécurité sociale.
Stop au virus de la grippe.
La grippe A, H1N1, n'est pas une maladie anodine. Elle peut avoir des conséquences graves. Nous pouvons tous faire quelque chose pour en limiter la propagation. Contre la grippe, la meilleure protection pour soi, pour son entourage, pour les plus fragiles, c'est la vaccination. La campagne de vaccination se déroulera progressivement. Vous pourrez vous faire vacciner dès que vous aurez reçu par courrier un bon de vaccination. Pour toute information, connectez-vous sur pandémie-grippale.gouv.fr. Les gestes de chacun font la santé de tous. C'était un message du ministère de la Santé et de l'INPES.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion, demain à 19h20. Jean-François Aquin.
Notre invité ce mercredi est Laurent Wauquiez, le secrétaire d'État à l'emploi. Nous évoquerons avec lui l'un des dossiers les plus sensibles pour le gouvernement, celui du chômage, ainsi que le sort des travailleurs sans papier. Rendez-vous avec Laurent Wauquiez dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fresseau du Monde, demain à 19h20. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, je vous retrouve à 17h pour un autre flash. Je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai écouté les carnets de campagne et puis le jeu des 1000 euros qui nous emmène en République tchèque. Et alors c'est très passionnant, ces liens, notamment une pièce jouée à la fois en tchèque et en français, et puis plein d'autres informations. Alors ça m'a donné l'idée pour suivre cette bonne relation, ce bon compagnonnage, de commencer avec Smetana, Frédéric Smetana. C'est moins risqué que de dire Bedřich, au risque de s'étrangler, pour un français en tout cas. Et je ne recommencerai peut-être pas dans l'émission. Smetana, qui était le fils d'un brasseur, un monsieur qui faisait de la bière, mais qui était très cultivé, qui jouait du violon en amateur. Et le petit Smetana avait commencé très 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 jeune. Jusqu'à 4 ans, il a remplacé son père dans l'interprétation d'un quatuor de Haydn au second violon. Et puis, à 6 ans, il jouait déjà des opéras au piano. Et il a évolué un peu contre l'avis de ses parents, évidemment, qui auraient voulu une profession plus rassurante que celle de musicien. Mais heureusement, il n'en a fait qu'à sa tête. Voici le premier opéra de Smetana, en tout cas un petit passage, un ballet de l'acte 1. C'est cet opéra qui lui a amené la première notoriété, parce que bon, d'abord c'est vivant, deuxièmement c'est en tchèque, c'était un opéra non pas en allemand mais dans la langue nationale, et puis c'est toujours coloré Smetana, je trouve qu'il y a une vitalité, il y a un certain sourire, une nostalgie, bref, adorable personnage. We'll be right back. Ballet du premier acte des Brandebourgeois en Bohème, opéra de Smetana, interprété par le BBC Philharmonique, dirigé par Gian Andrea Nozeda. Et voici La fiancée vendue. Alors là, la popularité de Smetana est devenue carrément immense, avec la version définitive de son opéra, et on peut dire que ce moment, évidemment, a fait de lui un héros national, parce que, bon, le sujet était assez amusant, l'histoire d'une jeune femme qui devrait être vendue, mais finalement elle va tomber dans les bras de celui qui l'aime vraiment. Et puis d'autre part, c'est devenu un véritable hymne national de Bohème, avec plein d'airs populaires, avec une vitalité extraordinaire, et même certaines pièces d'orchestre sont devenues universellement connues et interprétées.